les pays africains pourraient aussi avoir ces différences-là, des cultures fortes comme les Japonais. Ça n'empêche pas d'être occidentalisé comme les Japonais, les Chinois ou les Indiens.
Javier, tu avais une question?
Vous êtes aussi sociologue. Alors, pouvez-vous nous donner votre opinion sur la situation actuelle et la situation future du problème du sida en Afrique?
Oui, j'ai même écrit un livre sur le sida en Afrique. La situation est disons, très compliquée parce que dans certains pays, on n'a pas pris suffisamment de précautions. On voit des pays comme le Malawi. Bon, si on écoute les spécialistes, le Malawi pourrait disparaître puisque les gens qui ont le virus sont tellement nombreux. Mais quand on prend le continent globalement, on se rend compte que tout ce qu'on croyait n'est pas aussi vrai que ça, parce que il y a 20 ans, on aurait pu penser que bon, dans une décennie seulement, toute l'Afrique, c'est la mort avec le sida, et puis ça va devenir un continent vide. Mais on s'est rendu compte que le taux de natalité n'a cessé d'augmenter. La population s'accroît et l'Afrique a atteint maintenant 1 milliard d'habitants, ce qui est énorme quand même pour ce continent qui est sous-peuplé, parce que le continent africain est le moins peuplé au monde, parce que c'est maintenant qu'on a atteint 1 milliard, c'est-à-dire même pas la population de l'Inde, même pas la population de la Chine. Donc, j'ai l'impression que malgré la présence de ce fléau, avec beaucoup de contaminés, le continent parvient sur le plan démographique à plutôt progresser. Et à certains moments, on a l'impression que le taux de contamination et de développement de la maladie s'est stabilisé. On voit des pays dans lesquels le nombre de contaminés a baissé, le nombre de morts a baissé, alors que le pays n'a pas fait vraiment un progrès dans les soins. Donc on ne sait pas si c'est la nature qui est elle-même bon, en train de réduire un peu les effets. Mais il y a un autre problème qu'on a oublié. Le paludisme, à partir des moustiques, lui, continue à tuer plus que le sida. Parce que lui, il a toujours tué plus que le sida. Le paludisme tue en Afrique plus que le sida. Et lui, rien ne l'arrête. Parce que les moustiques, non seulement ils sont difficiles à éliminer, mais c'est que maintenant, ils ne veulent même plus rester seulement en Inde ou en Afrique. Ils peuvent même venir provoquer le paludisme en France. Parce qu'ils prennent l'avion aussi, les moustiques. Ben oui, si on les laisse, ils prennent l'avion, ils traversent les frontières sans visa et ben, ils veulent même après le massacre qu'ils font dans les pays comme l'Afrique et tout, ben, ils aimeraient aussi en faire un peu en Europe. Donc, eux, ils tuent plus que le sida. Mais ce n'est pas vraiment spectaculaire parce que c'était, disons, localisé. On ne se sent pas nécessairement concerné en Espagne ou en France quand on parle du moustique et du paludisme. Le sida, lui, il frappe beaucoup parce que tout le monde est un peu concerné quand ça se passe dans un coin africain. Rien ne permet de dire que ça restera là-bas, parce que c'est les êtres humains voyagent et tout. Donc, sinon, le paludisme, lui, je pense que ça va être difficile à éradiquer, mais il fait vraiment des dégâts. Et chaque année, c'est ou bien les chiffres sont constants ou le nombre de morts augmente, alors que pour le sida, ça baisse.
Avez-vous d'autres questions? Non.
J'ai une question. Michel Houellebecq a eu un grand succès, même dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez de Houellebecq?
Oui, Houellebecq, c'est un écrivain chez qui peut-être, on va dire, il y a des moments, il a écrit des livres que j'estime de très très bons livres. C'est quand il n'était pas encore très célèbre. Le tout premier livre, Expansion du domaine de la lutte, je ne sais pas quel est le titre en espagnol, je sais qu'il est traduit par Fourni, donc tous ces livres sont traduits en espagnol, je ne connais pas le titre en espagnol. Expansion du domaine de la lutte, c'est un très 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 bon livre. Il est petit, on ne le connaissait pas. Après, Les particules élémentaires aussi, pour moi c'est un très 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 grand livre. Après, il est devenu célèbre. Les médias parlent de lui. S'il dit un petit mot, bon, qui n'est pas très, très, très catholique, on va en parler, on va lui faire un procès. Je pense que depuis qu'il est devenu célèbre, peut-être qu'il n'a plus tellement l'esprit tranquille pour écrire des livres aussi bons que les deux premiers. Parce que, bon, on l'attend aussi, on parle de lui, on fait des polémiques autour de lui. Ça l'amène à ne pas être aussi bon que quand il avait commencé dans l'anonymat, où il a écrit de très très bons livres. On peut ne pas aimer, on doit reconnaître que c'est quelqu'un qui soulève des questions qui nous concernent tous, qui concernent son époque. Même si certains livres sont moins bons que d'autres, même si maintenant qu'il est connu, ça peut être comme un marketing de la part de... Parce qu'il y a cet aspect-là aussi. Mais il soulève des questions sur lesquelles on peut débattre. On peut ne pas aimer le livre, mais les questions, elles nous concernent tous. C'est un écrivain qui a au moins ça.
L'immortalité, par exemple.
Il est obsédé par l'immortalité grâce à la science, parce que les particules élémentaires, c'est un peu la science qui rendra les gens, ou bien ils vont vivre très longtemps ou immortels, et puis maintenant ils croient au clonage, parce que grâce au clonage, on va devenir immortel, mais bon, encore faut-il qu'on souhaite le devenir, hein. Je ne sais pas s'il y a tant de personnes qui souhaitent rester éternellement sur la terre, hein. Parce que moi personnellement, non, je ne souhaite pas. Je crois quand même que le seul séjour que je passerai me suffira. Franchement, je n'aimerais pas rester plus longtemps que ça sur la terre, parce que le clonage est là et tout, mais lui, il est obsédé par ça. Comment renaître de soi et ne pas mourir? Peut-être qu'il a peur de la mort, comme nous tous. Lui, il aurait voulu qu'on trouve les moyens de l'éliminer. Moi, je pense que ce qui rend la vie belle, c'est la mort. Quand même.
Et vos livres ont été, en tout cas, certains de vos livres ont été traduits en espagnol.
Non, un seul.
Ah, d'accord. Peut-être qu'en français, c'est difficile pour eux de le lire en français, mais s'ils voulaient donc lire l'un de vos livres en espagnol.
Oui, c'est le Place des Fêtes qui a été traduit en espagnol avec un titre assez provocateur, mais c'est pris dans le livre lui-même, Puta Vida. Mm-hmm. Ah, chez El Pobre, oui.
Vous avez travaillé ici, en Amérique, pour les universités, par exemple, dans la rue. Comment ça s'est travaillé?
C'est avec des associations ou l'université, plus précisément au Mexique, c'est le Collège de México. Donc, associations travaillent, par exemple les associations qui aident les enfants de la rue pour les intégrer, les aider à trouver des emplois plutôt que d'être dans la rue avec le risque de se faire tuer. donc avec les associations.
Non, des problèmes de parler avec les personnes dans la rue ou...
Non, les, disons, les personnes dans la rue, les premiers moments, ça ne se passe pas toujours bien parce qu'il faut apprendre à se connaître. Et moi aussi, dans certains milieux, j'ai peur aussi de la violence qu'il y a là-bas. Mais une fois que les gens avec qui je veux avoir des rapports comme ça pour connaître un peu leur vie m'ont accepté, que moi aussi j'ai accepté leur façon de vivre, ça se passe très bien. Ils font un effort pour comprendre l'espagnol très mauvais que je peux parler. Et ils font l'effort aussi de parler très lentement pour que moi je puisse les suivre. Et puis bon, ben, après, on se comprend même sans parler nécessairement. Quand on a passé du temps ensemble, on a fréquenté des quartiers ensemble, on finit par, disons, avoir même un autre langage qui n'est pas le français ni l'espagnol, et on se comprend bien. Pour le moment, je n'ai pas eu personnellement de problème. Ça s'est plutôt très bien passé, même dans des quartiers où ça aurait pu être dangereux. Par exemple, on m'a dit que dans le quartier de Tepito, c'est très très dangereux.
Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas, il y a un
Oui, il y a des lieux où bon, il y a une violence de tous les jours, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans des lieux où il y a la violence, on se rend compte que c'est aussi des lieux où il y a la vie. Comment ça vibre tout le temps, on est dans la vie du matin jusqu'au matin, c'est la vie, il y a tout. Bon, la mort, on va peut-être voir la mort, mais en même temps, c'est beaucoup plus vivant que quand on se promène dans un quartier de gens riches qui rentrent chez eux, qui sont tranquilles. Pour connaître leur vie, il faut qu'ils vous invitent chez eux dans leur appartement, qu'on vous donne le code ou qu'on vous accepte. Les quartiers violents, c'est que c'est dans la rue. On voit la vie dans la rue. Quartier violent ou quartier populaire, on voit la vie dans la rue. Moi, c'est ce qui m'intéresse, cette vie qu'on peut voir, qu'on peut voir sans être invité par les gens. Parce que s'il faut être invité, ce n'est pas tout le monde qui aura la chance d'être invité. Bon, mais moi, j'aime ces quartiers où je peux voir moi-même. Je peux même sentir le danger. Je peux sentir que ce que je vois peut m'arriver. Je l'écris dans le Fille de Mexique en disant que bon, parfois, quand je vais dans ces quartiers, je me dis, là, je suis tout près de ma propre mort parce que ça peut m'arriver. Ce que je peux voir peut m'arriver. Donc, c'est ce danger-là aussi qui me fait, qui me motive un peu. Non.
Vous pouvez connaître quelques personnes publiques chez lui. Oui, ça va aller mieux, mais après, vous êtes tout le temps en bagarre.
Oui, disons que c'est un peu comme, comment dire ça, c'est un peu comme, les gens qui se retrouvent dans les phénomènes de guerre. Quand on montre des gens dans des phénomènes de guerre à la télévision, ce qui est curieux, c'est que ils partent avec l'idée qu'ils vont faire quelque chose, avoir une victoire. Ils savent aussi que ils vont peut-être mourir, parce que si tu vas pour tuer des gens, tu peux aussi avoir peur qu'on ne te tue toi. Mais en même temps, quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont transportés, ils sont dans la fête, alors que c'est quelque chose de dangereux. C'est un peu ça, quand on se retrouve dans ces quartiers-là, au moment où on est vraiment attiré, on oublie que le danger est là. On se dit, ben, si on pense à ça tout le temps, donc on va rester dans l'hôtel où on est logé, parce que moi, je pars des hôtels sécurisés pour aller moi-même dans ces quartiers difficiles. Donc, je resterai à l'hôtel, je lirai des livres, et puis bon, ben voilà, je pourrais lire des livres qui parlent de ça. Moi, je veux vivre ça, et pour vivre ça, il faut que j'accepte de mettre ma vie en danger. Mais ça ne fait pas plaisir à ma femme, ça. Mais bon, c'est...
Vous êtes mon Harrison Ford.
Oui, moi, je... Sans son pouvoir à lui, moi, bon, je me mets en danger. Si c'est le danger à lui, je ne pourrais même pas me défendre. Oui, c'est pour ça que, disons, je prends le risque, c'est parce que, au bout, c'est vraiment enrichissant de connaître des situations qui me permettent aussi de me comprendre, de me connaître un peu mieux, voir mes limites. Parce que parfois, on se dit, quand on ne n'affronte peut-être pas des zones un peu limites, peut-être qu'on ne se connaît pas vraiment. Et dans des situations comme ça, on commence à se poser des questions sur soi, la part de violence que je peux avoir, et peut-être comprendre comment la gérer pour ne pas avoir à exprimer ça. Parce que il y a des moments où des choses qui sont très, très, disons, très laides comme ça, qui nous choquent, quand on les approche, sur un plan humain, on peut commencer à être fasciné par ça et ne plus être très vigilant. Il y a des gens qui partent pour des reportages et tout, et puis à un moment, ils tombent même dans ce qu'ils voulaient dénoncer. Parce qu'il y a une sorte de fascination qui est née. Moi, ça me permet de voir quels sont les risques que je vais courir, même en moi, en tant qu'être humain, quels sont les risques de basculer de l'autre côté et comment faire pour que toutes ces tentations qui peuvent être en nous quand on est dans des lieux un peu limite, comment faire pour ne pas basculer, être soi, ne pas se laisser aller à ce que les autres font, même si on est fasciné. Donc, à certains moments, c'est sur moi-même que la question revient. C'est ce qui fait que dans des livres qui parlent de ces expériences, il y a une bonne partie de moi-même. Parfois, c'est à la première personne, comme dans Fille de Mexico. Le personnage est un écrivain français d'origine togolaise comme moi, qui fréquente ces coins-là et qui se pose beaucoup de questions sur lui. Ça aussi, c'est une expérience qui enrichit énormément.
Et au Mexico, dans quel lieu votre œuvre est basée? L'œuvre.
Oui, dans quel lieu ça se passe?
Oui.
Et c'est le quartier de Tepito. C'est vraiment Tepito, c'est. Bon, c'est un quartier très populaire, tellement vaste, où il y a des millions de personnes qui vivent et où la violence est tellement grande qu'à un moment, la police a même trouvé un moyen un peu particulier pour tenter de réduire la violence. L'État a donné aux policiers les moyens financiers. Ils ont acheté des ordinateurs, des jeux électroniques et ils vont dans le quartier et ils proposent aux jeunes, à certains ils ne peuvent pas le faire avec tous, aux jeunes de rendre leur arme à feu, le pistolet, le revolver qu'ils ont pour qu'on leur offre un ordinateur et des jeux électroniques. Ben, je parle de tout ça dans Fille de Mexico. C'est-à-dire, on en est arrivé à l'idée que si la police arrive avec des armes, on va lutter contre eux avec les armes. Eux aussi ont des armes et ils peuvent tuer. Et ils ont tué. Les policiers ont été tués là-bas, les policiers ont tué aussi là-bas. Et ils se sont dit, peut-être que si on proposait comme ça, vous amenez vos armes, on vous donne l'ordinateur et des jeux. Certains ont remis leurs armes et puis ils ont eu un ordinateur et des jeux, mais les armes, ça se rachète aussi. Là, ils ont l'arme et l'ordinateur, voilà. Étant fille de Mexico, je racontais un peu comment dans ces quartiers-là, quand on prend un taxi, on peut se retrouver peut-être dans un taxi avec des gens qui sont en fait des voleurs. J'avais été frappé par une chose, c'est que le livre est sorti il n'y avait pas longtemps, et puis à Mexico, un chercheur français était arrivé à l'aéroport, et à l'aéroport, il change 5000 euros en pesos mexicains. Il monte dans un taxi, il ne savait pas que le taxi était avec des voleurs, donc il monte et puis deux jeunes montent dans le taxi. Il ne connaissait rien de ces choses-là pour savoir que bon, quand tu es dans cette situation, il te demande de donner ce que tu as. Tu vas tout donner, même en souriant, tu vas même lui dire si tu veux encore, on va à la banque, je retire encore plus, je te donne. Parce que c'est ta vie que tu vas acheter. Et lui, il a peut-être pensé qu'on était dans les rues de Paris. Non, il lutte avec eux, il dit non, vous n'allez pas avoir mon argent. Ils sont dans la zone de l'aéroport avec les caméras. Mais ça n'a pas empêché que le jeune lui mette une balle là et tire. Et quand on voit la vidéo, c'est-à-dire qu'il savait qu'il est filmé. C'est pas son problème. Mais le chercheur français est descendu de l'avion. Il a eu le temps de récupérer ses bagages. Il a changé de l'argent. Il allait prendre le taxi là pour aller prendre un car et aller dans le coin du Mexique où il allait travailler. Il n'a pas pu rentrer dans Mexico. Il est tué, filmé dans le taxi. Et ça, je raconte ça dans Fille de Mexico. Ça dit pas sa mort, mais puisque ce n'est pas nouveau, au quartier Tepito, par exemple, ces choses existent et tout. Je raconte ça. Et quand on voit que ça peut arriver concrètement, ce chercheur-là, je ne le connaissais pas, mais ça m'a fait quelque chose. Je me dis, oui, moi, j'aurais pu être à sa place, sauf que moi, je n'aurais pas fait ce qu'il a fait. Déjà, je ne vais pas changer 5000 euros dans un aéroport comme ça. Parce que c'est toujours, on dit toujours de faire attention. Mais si je l'avais fait, quand il est rentré, il me dit, l'argent, mon sac, tout, tu prends la valise, tu prends et puis bon, voilà, je pars les mains vides. Et c'est aussi un petit côté dangereux de ces coins-là. C'est vraiment un problème qui peut arriver à tout le monde. On ne s'en rend pas compte. Ça peut arriver. Il n'y a pas très longtemps, un journaliste français qui travaillait sur des gangs dans une rue, je ne sais plus dans quel pays latino-américain, les gangs et les policiers, comment les policiers éliminaient ces gangs-là. Lui, il a pu travailler jusqu'à faire son film. Il est reparti dans, je ne sais pas, c'est dans un pays d'Amérique centrale. Il était reparti là-bas avant la sortie de son film à Paris. Et puis, il a été tué dans la rue. On ne sait pas si c'est la police ou si c'est les délinquants sur lesquels il travaillait. Parce que le film allait sortir, est-ce que... Ben donc, lui, il a pris des risques plus que moi, parce qu'il les a fréquentés pendant des années. Il est avec eux dans la rue quand ils vont faire leur action. Il a filmé des moments où il tuait. Dans le film, quand on regarde le film, il a suivi la police qui tuait des délinquants. Il a suivi les délinquants qui pouvaient tuer des policiers. Il a tout filmé, parce que c'est vraiment un documentaire. Sauf qu'au moment où le film allait sortir, il a été tué de la même manière qu'il voyait tuer. Donc, c'est au Guatemala, voilà, c'est au Guatemala, c'est au Guatemala. C'est au Guatemala qu'il a été tué en plein jour. Donc, ça peut arriver à toute personne qui prend des risques, mais déjà la vie est un risque.
Oui, il y a un pays où il passe souvent.
Il y a des pays où c'est plus risqué que dans d'autres.
Oui.
Et la vie, elle, son risque, c'est que à tout moment, le risque peut être élevé. La seule chose, c'est que quand on n'est pas dans un endroit où le risque est élevé, on n'y pense pas. Quand ça vient, ça surprend, mais on n'y pense pas.
D'accord. Bien, nous vous remercions.
Merci.
Je...